ces quatre séances, j'hésite encore. J'hésite encore sur la succession des séances, à part la première, qui bien sûr elle est bouclée. Je vais vous parler. J'hésitais entre soit vous faire les quatre séances autour de la thème qui a été mon principal thème de recherche sur ces six dernières années, donc qui est lié à l'histoire de Lyon au début des années 1830, l'histoire de la fabrique, on verra ce que c'est l'industrie de la soie lyonnaise au début des années 1830, et notamment au temps des deux grandes insurrections, 1831 et 1834. Soit je faisais mes quatre cours autour de cette thématique-là, soit je le faisais plus généralement au début des années 1830, ce sera une deuxième thématique de recherche que j'ai développée depuis moins de temps, depuis trois ans, qui est liée à ce premier thème, porte sur les utopistes, une relecture un petit peu des utopistes du début des années 1830, notamment les Saint-Simoniens, les Fourieristes, les dissidents Saint-Simoniens et les Républicains, bien comme Rastal. Bon, j'ai hésité, puis j'hésite peut-être plus pour l'instant à axer les quatre séances en fait sur les Canuts, Lyon et la fabrique, l'industrie de la soie lyonnaise, au début des années 1830. Et je pense pour l'instant que les quatre présentations adopteront en fait la logique suivante. Dans la première présentation aujourd'hui, je vais faire un petit peu un tour d'horizon de ce début des années 1830 à Lyon, un début d'horizon de ce qui s'est raconté, qu'on peut dire sur les Canuts, leur industrie, leurs revendications, dans cette courte période, très courte période de 5 ans, qui va à peu près 1830 à 1835. La première séance donc sera sur ces aspects assez généraux, j'essaierai de dresser un tableau de la situation. La deuxième séance, la semaine prochaine, je m'intéresserai plus spécifiquement à l'histoire des réceptions des événements de 1831-1834. C'est-à-dire, je vous parlerai de la façon dont les événements, les deux insurrections de 1831-1834, cette période agitée, turbulente depuis les années 1850, a été lue, traduite dans l'instant, c'est-à-dire dans ces années-là, mais également comment elle a été lue, traduite, réceptionnée, au cours de l'histoire depuis deux siècles. Donc on s'intéressera en particulier dans cette cours à la façon dont cette histoire des Canuts a été vue également à certains moments cruciaux, comme 1848, je ne sais pas si on l'abordera, mais comment ont été vues les insurrections des Canuts par les républicains français, par exemple, du moment 1900, autour de 1900, au moment de l'affaire Dreyfus, juste après l'affaire Dreyfus, au moment où se décidaient les grandes lois sociales françaises, comme la loi sur les accidents de travail, 1898. Les premières grandes lois sur les retraites, comment à ce moment-là, les gens qui travaillaient sur cette thématique-là ont commencé à lire, ont traduit les insurrections de 1831-1834, comment en 1930, au moment du centenaire, s'est fait, comment un grand historien comme Fernand Rude a interprété les insurrections des Canuts. Comment s'est racontée cette histoire sur des modes assez différents depuis, en gros, depuis un siècle et demi. Dans la troisième séance, j'insérerai plus la troisième séance, puisque la thématique de l'Université populaire cette année est la censure, et des proches de la censure. Il se trouve que j'ai travaillé plus spécifiquement, moi, sur la presse des Canuts, et notamment sur leur journal, qui a été le premier journal ouvrier français publié, que eux ont publié en 1831-1835, ça s'appelait l'Écho de la Fabrique. Donc j'ai travaillé spécifiquement sur l'Écho de la Fabrique, je l'ai analysé dans un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, à l'automne dernier, et je détaillerai de façon un petit peu plus précise comment dans l'Écho de la Fabrique, on repère certaines périodes, on repère certaines revendications, comment tout ça évolue, quelles ont été les inspirations des journalistes canuts, des journalistes républicains, ça sera la troisième séance, ce sera la quatrième séance sur laquelle j'ai encore un petit peu de doute dans la mesure où il faudrait que je puisse travailler ce thème d'ici là. La quatrième séance porterait plus spécifiquement sur un sujet sur lequel je vais travailler maintenant avec un collègue historien, qui est l'histoire d'un prud'homme chef d'atelier lyonnais, qui s'appelait Pierre Charron. Donc il y a eu prud'homme, chef d'atelier, approximativement entre 1830 et 1850 à Lyon. Il se trouve que les papiers de Pierre Charnier, les archives de Pierre Charnier, sont à la bibliothèque municipale de Lyon, avec une découverte par Fernand Rude au début des années 1930. C'est 6 ou 7 boîtes d'archives dans lesquelles Charnier explique un ensemble de choses, sa vie au jour le jour, ses démêlés avec les prud'hommes négociants, ses démêlés avec les négociants, la façon dont il a ses fonctions avec les biens publics et autres. Donc en fait, voilà, j'aimerais bien axer les 4 séances sur ces 4 thématiques-là, qui sont toutes sur ce thème. Bon, pour éviter de trop faire de redites sur les thèmes. Concernant cette première séance, donc j'entame la première séance, quelques questions, quelques remises en perspective autour de novembre 1831, la première insurrection des Canuts, et avril 1834, la deuxième insurrection des Canuts. Je débuterai par un bref rappel, une brève chronologie, un petit peu pour cadrer la période, une brève chronologie des événements qui se succèdent entre, en gros, juillet 1830 et septembre 1835. Juillet 1830 en premier, c'est l'une des 3 grandes révolutions du 19e siècle en France, 1789-1848. Les 3 glorieuses de juillet 1830 ont été pendant longtemps considérées comme une révolution ou des journées révolutionnaires relativement mineures. Ceci dit, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on est revenu un petit peu sur cette interprétation et on considère que 1830 est une révolution absolument fondamentale dans l'histoire de France au XIXe siècle. Pour quelles raisons ? Eh bien, notamment en raison du fait que lorsque le roi Charles X est détrôné en 1830 et qu'on le remplace par Louis-Philippe, donc au moment des Trois Glorieuses, la monarchie constitutionnelle qui s'était mise en place en 1814 en France, c'est-à-dire dans laquelle une constitution était octroyée, à ce moment-là, était octroyée par le roi, qui permettait les premiers développements du parlementarisme, cette monarchie constitutionnelle est accentuée par les journées insurrectionnelles de 1830. La constitution a désormais un poids beaucoup plus important, un contrepoids beaucoup plus important, et on considère que, à la suite de ces journées de 1830, un certain nombre de libertés civiles et politiques fondamentales comme la liberté du jury, la liberté de la presse, sont expérimentées et enregistrent des nets progrès à ce moment-là. Donc, révolution politique en juillet 1830. La deuxième date que j'ai retenue, c'est juin 1831. Quelques mois après cette révolution politique dans laquelle un certain nombre d'éléments du peuple ont fondé des espoirs importants, la révolution politique ne donne pas des résultats sur le plan économique et social qui sont des résultats immédiats. On peut même dire que la déception est assez forte très rapidement après la révolution de 1830 et de l'agitation sociale se développe. En juin 1830, j'ai retenu cette date tout simplement parce qu'on voit débarquer à Lyon, s'agite, les Canuts commencent à s'agiter, la situation économique n'est pas bonne, mais elle n'est pas bonne depuis en fait 1827, il y a une crise économique qui s'est amortie, on est au tout début d'un phénomène nouveau qu'on ne connaît pas à ce moment-là, qu'on commence à reconnaître qui est la crise économique, sans doute que c'est un phénomène tout à fait nouveau, il y a une crise commentaire dans le régime, mais là on se rend compte que de façon très curieuse, ce qu'on appelle le système industriel, le nouveau système industriel, le nouveau monde industriel, développe des pathologies particulières, et une de ces pathologies, c'est la crise, et qu'il semble qu'à échéance régulière, on commence à parler de crise perpétuelle, tous les 7, 8, 10 ans, il y a une crise qui se développe. Une crise s'est développée en 1827, et d'ailleurs elle est en partie à l'origine de la révolution de 1830. Cette crise entraîne le développement des discours nouveaux, et en juin 1830, vous avez les Saint-Simoniens, vous avez les prédicateurs Saint-Simoniens qui arrivent à Lyon, et qui font des prédications qui attirent le foule, dans lesquelles ils présentent un certain nombre de thématiques qui vont constituer, qui sont au cœur de leur doctrine sociale. Donc, des thématiques sur la crise industrielle, le nouveau système industriel, lesquels ils viennent assister à ces conférences, et c'est des conférences qui ont un énorme impact. En octobre, j'ai retenu en troisième date, octobre 1831, Dans la mesure où l'agitation est très importante à l'automne 1831, on est à peu près un an après la révolution de juillet 1830, la révolution politique de juillet 1830, la situation sociale est assez mauvaise à Lyon, et des revendications commencent à apparaître, des revendications assez fortes, des Camus, c'est-à-dire des industriels de la soie, des chefs d'atelier en soierie, pour qu'il y ait une tarification des différents tissus de la soie. Donc il y a un tarif minimal sur la soie et que les tarifs payés à la pièce, les tarifs arrêtent de baisser. Les Camus se réunissent, discutent et demandent donc qu'il y ait une convention, qu'il y ait un accord qui soit conclu avec les négociants pour que les prix, les pièces de soie arrêtent de baisser. Octobre 1831 est aussi important, parce que j'en parlerai un petit peu, enfin, j'en parlerai tout à l'heure, j'en parlerai lors de la troisième séance. C'est à ce moment que les chefs d'atelier se réunissent, s'organisent. Là aussi, on verra, ils ont déjà des habitudes en termes d'organisation, qui sont des habitudes assez remarquables, et décident qu'il faut faire absolument porter, faut absolument que la foi porte dans le cadre du débat, et ils créent leur journal. Le premier numéro, le prospectus de l'Écho de la Fabrique, qui est le journal des chefs d'atelier en soirée de Lyon, à ce moment-là, le prospectus circule. Dans les derniers jours d'octobre, le premier numéro de l'Écho de la Fabrique paraît le 1er novembre 1831. Donc, date extrêmement importante. Novembre 1831, oui, puisque c'est les derniers jours, notamment les derniers 10 jours de novembre 1831, que, en raison du fait que le tarif sur lequel discutaient les Camus, sur lequel voulaient discuter les Camus, en octobre 1831, avec les négociants, la tarification des le tarif a été dénoncé par le nouveau gouvernement, non seulement par les négociants, mais par le nouveau gouvernement de Louis-Philippe, le gouvernement dirigé à ce moment-là par Casimir Perrier, qui marque un durcissement du régime de juillet. Le régime de juillet, c'est-à-dire que les tarifs d'octobre 1831 ne sont pas conformes à la charte libérale de 1830. Dans la mesure où ce sont des accords collectifs, et en plus ce sont des accords qui ont été visés par l'autorité légale de l'époque, qui était le préfet, Louis Mignola, qui était à Québec. Donc le gouvernement de Casimir Perrier, qui est sollicité par les négociants pour dénoncer ce tarif, se prononce contre le tarif, en disant que ce tarif est simplement indicatif, ce n'est pas du tout un tarif qui doit être impératif, ça ne peut pas, parce que c'est un accord collectif et ce n'est pas un accord de gré à gré entre l'entrepreneur et un ouvrier. La dénonciation de ce tarif, même le plus au cours, les Camus se soulèvent le 21, 22, 23 novembre, stupéfaction, dans la mesure où, dans les jours, donc dans ces trois premiers jours, du 21, 22, 23 novembre 1831, ils battent la troupe. Les troupes royales sur Lyon font retrait, sortent de la ville. La ville est donc aux mains pendant une dizaine de jours, pendant ces trois jours-là plus. Puis 4 ou 5 jours suivants, va être aux mains des Camus pendant cette dizaine de jours, et ce qui stupéfait le plus les observateurs, bien entendu, dès que la ville tombe, les troupes du roi vont se converger, qui sont menées par le maréchal Soult, le ministre de la guerre, et par le prince d'Orléans, le fils du roi, les troupes convergent vers Lyon, mais pendant quelques jours, la ville est aux mains des insurgés, et ce qui stupéfait le plus les observateurs, c'est qu'ils administrent calmement la cité, que la cité n'est pas en proie au chaos. Et au bout de 10 jours, bien sûr, les troupes arrivent, et là, ils sont obligés de rendre les clés de la cité. J'ai noté novembre 1831, j'ai noté également mars 1832, un petit peu pour cadrer cette période. Pourquoi ? Parce qu'en mars 1832, suite à cette première insurrection, un certain nombre de promesses ont été faites au Camus, notamment quand ils étaient maîtres de la cité, mais même par la suite. L'une de ses promesses principales a été portée sur la réorganisation d'une institution fondamentale pour le fonctionnement de la fabrique de Lyon, de l'industrie castellane de Lyon, qui était les prud'hommes. Et en 1832, il y a eu une réforme des prud'hommes qui va un petit peu plus dans le sens des revendications des Camus, qui équilibre la représentation, qui équilibre en partie la représentation entre les négociants et les chefs d'atelier à l'intérieur des prud'hommes de Lyon. Mars 1832, j'ai noté également juin 1832, autre date importante, juste quelques années, j'essaie de faire une chronologie un petit peu pour j'essaie de piquer quelques aiguilles dans ce cas. Donc, voie 1832, parce qu'on considère que c'est une période importante pour la monarchie de Juillet, c'est une période de changement, de durcissement très net du régime, dans la mesure où, en juin 1832, il y a l'enterrement d'un grand général de l'Empire, qui était le général Lamarque, et les républicains veulent se saisir quelques velléités d'insurrection à Paris en juin 1832. Ils veulent se saisir de l'événement pour finalement mettre à bas la monarchie, de Louis Philippe. En fait, c'est un pétard mouillé. Cette insurrection républicaine ne fonctionne pas et le régime, lui, entre dans une phase qui est beaucoup plus conservative. On rentre à partir de juin, à partir de juin 1832, de l'été 1832, dans une nouvelle conjoncture politique au niveau de la monarchie de Juillet, dans la mesure où le pouvoir se durcit, ça devient de plus en plus conservateur d'une part, et d'autre part, la répression de l'insurrection de juin 1832 conduit les sociétés républicaines et les journaux républicains à adopter des positions qui sont des positions beaucoup plus opposées. J'ai noté septembre 1833 parce que on a pris une année entre juin 1832 et septembre 1833. Dans cette période, que ce soit Paris ou à Lyon ou en province, de façon générale, les républicains, les utopistes, tous ceux qui sont contre la pente conservatrice qu'adopte alors le régime de Juillet, sont sous le coup de procès, sous le coup d'arrestation, ont de plus en plus de mal à survivre dans leur expression. Et en septembre 1833 à Lyon, on voit se faire la suture entre les républicains, la principale société républicaine qu'il y avait à l'époque, qui était la Société des droits de l'homme, et le mutualisme lyonnais, qui était l'organisation des chefs d'affaires. Donc c'est une date assez importante, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à monter en régime vers la seconde insurrection qui aura lieu quelques mois plus tard. Février 34, je l'ai noté aussi, c'est une date qui est absolument fondamentale. Quand j'ai travaillé sur ce sujet, c'est peut-être la date qui est, à mon sens, peut-être la date la plus importante dans cette période. En février 1834, vous avez probablement le premier exemple en France de grève générale. Généralement, quand on consulte les historiens, les gens comme Michel Perrault ou autres, travaillé sur la naissance de la grève moderne en France, on considère que la grève générale, la grève moderne, apparaît une cinquantaine d'années plus tard, apparaît dans les années 70-80. Or, en février 1834, la conjoncture dans l'industrie de la soie est à la baisse, sauf dans un de deux secteurs, dans le secteur des peluches. Et dans le secteur des peluches, les négociants décident, malgré les profits qu'ils font à ce moment-là, les gains qu'ils font à ce moment-là, de baisser également le tarif des peluches. Et donc, les peluchiers se mettent en grève, enfin, se revendiquent et autres, et toute l'industrie de la soie, tous les chefs d'atelier qui sont réunis dans une organisation, pour la plupart, enfin, la grande majorité sont réunis dans une organisation, dans leur organisation de mutualisme, le devoir mutuel, décident par solidarité de commencer une grève générale. Et cette grève générale est organisée et menée en dépit des provocations de la police. Elle est déclenchée, par contre, je n'ai plus en tête exactement la date, elle est déclenchée durant le mois de février et va durer une semaine. Bien entendu, les grévistes, au bout d'une semaine, se font casser les reins, ils sont obligés de reprendre le travail. Mais là encore, c'est un événement qui est très important parce qu'il montre à la fois le degré de maturité et. Oui, et le degré de résistance et le degré d'organisation de la qualité obtenu par les PMU. Bon, avril 1834, j'ai noté cette date aussi parce que c'est la seconde insurrection. Vous avez vu, juin 1832, septembre 1833, février 1834, en fait, les tensions ont augmenté, la répression s'est abattue un peu partout, les conditions sociales ont modifié, la législation a relativement peu évolué. Et donc, en avril 1834, c'est la seconde insurrection du Lyon, qui va durer là aussi une dizaine de jours. Ça se passe beaucoup moins bien. Les insurgés remportent quelques victoires pendant un ou deux jours. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que les troupes du roi, qui avaient été complètement traumatisées en novembre 1831, d'avoir été battues à la couture, là sont préparées Les insurgés sont attendus. Une ceinture de fort a été dressée tout autour de Lyon. Et là, la répression est terrible en avril 1834. J'ai noté après septembre 1834 comme date parce que dans les mois qui suivent la seconde insurrection, la répression, comme je l'ai dit, est assez forte, mais les taux se desserrent un tout petit peu à l'automne. Je dis un tout petit peu parce que à l'automne commence un événement important, c'est ce qu'on a appelé le procès Mons, auquel les insurgés de Lyon, également le début d'insurrection à Paris, une insurrection à Paris, tous les insurgés républicains sont traînés en procès de la Cour des Pères durant l'année 1834-1835. C'est un immense procès qui commence. Mais en septembre 1834 à Lyon, il y a un événement qui est important, c'est que c'est la presse des Camus, donc, qui a existé d'octobre 1831 à avril, début du mois de mai 1834, qui a été interrompue en 1834, recommence à paraître. Et donc pendant une année de nouveau, on a cette voix des Camus qui va être publiée dans un nouveau journal, ça ne s'appelle plus l'Écho de la Fabrique, ça s'appelle l'Indicateur, il y a un deuxième journal, un journal concurrent, il y a une double expression à ce moment-là. Donc il y a l'Indicateur, il y a ce deuxième journal qui s'appelle La Fée du Prolétaire, et pendant de nouveau une année, vous allez avoir une publication des chefs d'atelier sur Lyon. Donc cette publication, là, je le verrai plus en détail, le contenu au niveau de la troisième séance. Enfin, la dernière date sur laquelle je m'arrêterai, c'est septembre 1835. Dans la mesure où on peut considérer que en septembre 1835 se clôt un petit peu une période parce que durant le mois d'août 1834-1835, il y a le procès Mons, c'est le premier de l'année, l'opposition républicaine est décapitée. À Lyon, les chefs d'atelier, les républicains et autres sont tous surveillés. Et en août 1835, il y a un attentat contre le roi. Le roi en sort indemne, mais en septembre 1835, des lois d'exception sont votées, et tout un ensemble de libertés qui avaient été votées par la charte de 1830 sont remises en question, et notamment la liberté du jury, mais notamment la liberté de la presse. Et donc la presse qui s'est exprimée sur tous ces événements, qui à mon avis était la colonne vertébrale de l'expression des Camus pendant cette période-là, cesse de paraître en septembre 1835. Pour voir réapparaître la presse, il faudra attendre à peu près 5 ans. Et c'est au début des années 1840 qu'on va voir ressurgir une presse, petite presse ouvrière lyonnaise.
Donc voilà pour ce cadrage des événements sur ces quelques années. Oh, j'aurais pas pu. Donc une première question sur ces Camus dont on a juste mentionné là rapidement ces insurrections au début des années 1830. Première question, les Camus étaient-ils des ouvriers? C'est une question qui est importante, dans la mesure où pendant très longtemps, on verra pour cette présentation, mais on verra encore plus nettement peut-être la semaine prochaine, quand je parlerai des réceptions des insurrections, cette période 1851-1834, dans les périodes postérieures. Pendant très longtemps, les Camus étaient considérés comme des premiers ouvriers, la naissance de la classe ouvrière en France. Les toutes premières ébauches de l'ouvrier moderne. Or, quand on étudie, je vous ai sélectionné en fait deux images là, parce que je trouve qu'elles sont significatives de la façon dont tout un ensemble d'options, d'imaginaires, de décisions ont été à l'origine de la représentation qu'on s'est fait du peuple Camus. Vous avez une première image en haut qui doit dater, qui doit dater normalement, elle a été faite au début du XIXe siècle. Et elle représente bien sûr l'atelier Camus, donc avec le père, la famille tout autour. Et surtout, ce qui transpire au niveau de cette présentation, c'est en quelque sorte une image de la, d'abord une certaine image de l'abondance, une certaine image de la prospérité, une certaine image de la sérénité, la famille d'ensemble, une image de l'activité. Donc vous avez une première présentation qui est une présentation finalement dans un sens qui est un petit peu tourné vers un passé, un âge d'or de la fabrique. La deuxième par contre présentation et la deuxième image date à mon avis d'une cinquantaine, si on considère que la première est du début du 19e siècle, la seconde doit être de 70 ou 80 ans plus tard, au moment des grandes crises industrielles du 19e siècle. Et bien sûr, la présentation est beaucoup plus sombre. L'atelier est à l'arrêt. L'ouvrier est isolé, il est seul, il chôme. Bien entendu, on n'a pas du tout la même image de prospérité dans cette deuxième image. Donc là aussi, on verra ça un petit peu la semaine prochaine, mais on voit bien à quel point la représentation des Camus a été un enjeu, la représentation de ce qu'ont été les Camus a été un enjeu qui a été un enjeu très très important au XIXe siècle, et on le verra aussi au XXe siècle. Alors concernant cette question, les Camus étaient-ils des ouvriers? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser un tout petit peu au système de la fabrique, de la grande fabrique lyonnaise, c'est-à-dire l'industrie de la soie lyonnaise. Or, l'industrie de la soie lyonnaise était organisée sur un modèle productif qui n'était pas celui qu'on commençait à expérimenter dans le domaine du textile, en Angleterre ou dans le nord de la France, par exemple pour les industries de la laine ou de la soie, qui était le modèle de la manufacture concentrée, dans lequel les ouvriers commençaient à être rassemblés dans la manufacture. Le travail était le plus dépendant du processus de parcellisation. Ce modèle de la manufacture concentrée commence à se mettre en place, on le verra dans cette période-là, mais ce n'est pas le modèle qui est en fonctionnement dans le cadre de la fabrique de Lyon. Concernant ce modèle, voilà la description qu'on peut en faire. C'est, donc je fais ici juste que citer une présentation que font les notables lyonnais, notamment les négociants lyonnais au début des années 1830, au nouveau préfet qui a été mis en place par le gouvernement de Casimir Perier au lendemain de la première insurrection. Le préfet précédent qui avait entériné les accords collectifs entre Canut et négociants a été mis à pied, et donc un nouveau préfet, Antoine Gasparin, arrive à Lyon. Voilà la façon dont les négociants de Lyon décrivent le système de la fabrique. La production des tissus de soie, donc je les cite, la production des tissus de soie n'est pas, comme celle des autres tissus, et là il parle de la laine ou du coton, n'est pas, comme celle des autres tissus, concentrée dans quelques grands ensembles réunissant des masses d'ouvriers. La production dont il s'agit se répartit au contraire entre plusieurs centaines de maisons qui reçoivent en premier lieu les commandes des mains des commissionnaires, leur intermédiaire avec les pays de consommation. Elle est ensuite distribuée par chaque maison entre des chefs d'atelier qui, possédant chacun un ou plusieurs métiers exploités par eux-mêmes ou par des ouvriers logés chez eux, sont de fait à la tête de petites manufactures, dont la Réunion compose à proprement parler la fabrique de Lyon. Donc le système productif lyonnais et le système de la manufacture dispersée.
Ce système, pendant très longtemps, on a considéré que le système de la manufacture dispersée était un système préhistorique par rapport à des systèmes beaucoup plus rationnels, beaucoup plus productifs, qui sont le système de la manufacture concentrée, dans lequel les ouvriers sont installés dans la manufacture, puis le système de l'usine. Or, les études récentes montrent en fait que ce n'était pas du tout le cas, ce n'était pas du tout un système qui était un système obsolète, qui était un système qui représenterait une sorte de préhistoire de l'évolution industrielle. D'abord, c'était un système qui était extrêmement varié, dans la mesure où, bien entendu, il y avait un ensemble d'ateliers, donc comme il est mentionné par les négociants, le système de la fabrique, l'industrie de la soie lyonnaise, apparaissait comme une multitude d'ateliers dispersés sur l'atelier de la Croix-Rouge ou dans le Vieux-Lyon, dans le quartier Saint-Jean à Lyon. Ça apparaissait de cette manière-là.
Mais ces ateliers eux-mêmes étaient des ateliers, les ateliers eux-mêmes pouvaient différer grandement. À l'intérieur d'un atelier, vous pouviez avoir en gros de 2 à 8 métiers. La moyenne, la principale moyenne étant, la moyenne, la majorité des ateliers étant de 4 à 5 métiers. Bien entendu, grande variété, dans la mesure où, bien entendu, un atelier dans lequel il y avait 2 métiers ne fonctionnait pas du tout de la même manière, ne représentait pas du tout le chef d'atelier d'un atelier de 2 métiers, n'était pas du tout dans la même position que le chef d'atelier possédant 8 métiers. Premièrement, donc, très grande variété des ateliers. Deuxièmement, très grande variété des ateliers en raison de leur spécialisation. Chaque atelier pouvait avoir une spécialisation différente, était plus ou moins spécialisé dans la production de tel ou tel type de tissu. Donc c'était une économie dispersée, une économie de variété. Le troisième point, c'est que c'était une économie, contrairement à ce qui a pu être dit quand on analysait le putting out system, c'est-à-dire le système des ateliers dispersés, c'était un système extrêmement complexe. Dans la mesure où ça apparaissait comme un réseau d'ateliers, mais un réseau d'ateliers qui était connecté. Ce réseau d'ateliers était bien entendu ouvert sur le marché, ouvert sur l'activité marchande, mais bénéficiait de régulations qui étaient des régulations fortes. Régulations qui venaient d'une part d'institutions qui allaient être produites par le fonctionnement même de la fabrique, de l'économie de la soie. Et là, je pense en particulier à une institution comme les Prud'hommes. Mais ce système était également régulé de très près, était également surveillé de très près par la municipalité, par le gouvernement et autres qui investissaient dans ce système. Ce n'est pas du tout un système qui apparaissait préhistorique, je le dis parce que c'était un système un système de variété, c'était un système assez complexe configuré comme un réseau, et c'était un système également qui était un système extrêmement performant. Quand on regarde les performances de ce système par rapport à ce qui se fait à ce moment-là en Angleterre, où l'industrie de la soie, les Anglais essayent de configurer l'industrie de la soie, de rapprocher leur industrie de la soie de ce qui se fait dans le domaine du coton et de la laine. Donc, ils concentrent les ouvriers dans les manufactures. Or, très rapidement, l'industrie de la soie anglaise est beaucoup moins compétitive que l'industrie de la soie lyonnaise. Ce qu'il faut noter, c'est que l'industrie de la soie lyonnaise, organisée sur ce modèle-là, qui n'était pas du tout un modèle, finalement, désorganisé, un modèle de gaspillage ou autre, l'industrie de la soie lyonnaise était une industrie un, performante et deux, innovative. Donc, à l'intérieur de ce système, il y avait 3 acteurs principaux. Les premiers acteurs étaient les négociants ou les commanditaires, qui avaient une double activité. Une première activité du négociant était une activité de prospection des marchés. Et vous avez un certain nombre de textes qui montrent à quel point les activités commerciales des marchands lyonnais étaient dynamiques dès le XVIIIe siècle. Auparavant, et dès le XVIIIe siècle, c'était une activité commerciale extrêmement performante. Ils allaient se déplacer sur les marchés, notamment sur les marchés étrangers, en Angleterre, en Europe, mais également ils ont ouvert des comptoirs en Amérique latine, aux États-Unis et dans d'autres endroits. Ils allaient présenter les échantillons et ils essayaient non seulement de deviner les tendances du marché de la soie, mais ils essayaient également de la susciter. De susciter les orientations de la mode. Donc d'un côté, ils avaient cette activité-là, une activité commerciale, et de l'autre côté, quand ils revenaient avec un certain nombre de commandes qui, selon eux, allaient faire la mode ou allaient faire les ventes de l'année à venir, ils commandaient, s'ils avaient une activité de commande, aux différents ateliers. Donc, à nos différents ateliers, chaque atelier commandait tel ou tel type de tissu en tel ou tel type de quantité. Donc ça, c'est l'activité des négociants, c'est une activité productive. Il y aura des débats dessus pour savoir jusqu'à quel point qui est, surtout par la suite, qui est des parasites dans le cadre de ces organisations industrielles. On s'aperçoit que le négociant est une activité productive, entrepreneuriale. Le deuxième acteur est bien entendu le chef d'atelier, qui lui a une activité qui est une activité principalement de tissage. Et de transactions avec les négociants. Et puis le chef d'atelier emploie un certain nombre de compagnons à l'intérieur, là on n'en voit pas, mais à l'intérieur de son atelier, surtout si l'atelier fait 3, 4, 5, 6 métiers. Un point que je mentionne en passant, qui est assez un point important et sur lequel il y aurait des...
probablement des recherches à faire, mais je ne sais pas où il y aurait des archives là-dessus, et la place de la femme dans le cadre de cette économie d'atomes.
Parce que, comme on va le voir un petit peu par la suite, cette industrie de la soie lyonnaise a mis en place...
D'abord, c'était une industrie de pointe, c'était une industrie très technique, il y avait des savoir-faire, c'était innovative. Et c'est une industrie qui est également innovative, non seulement sur le plan technologique, comme on l'a dit précédemment, mais également sur le plan social. Tout un ensemble de régulations nouvelles qui vont être expérimentées dans le cadre de cette économie d'atelier. Et en particulier, nous verrons l'habitude de passer un certain nombre de compromis ou de négociations au niveau des prud'hommes. Or, on s'aperçoit que dans le cadre de cette démocratie d'atelier qui va se mettre en place à Lyon dans cette période-là, les femmes ont une place importante. Dès avant la Révolution, dès 1786, il me semble, on a permis aux femmes de devenir chefs d'atelier. Par ailleurs, elles sont impliquées dans l'activité du tissage. Elles s'occupent d'un certain nombre de tâches du tissage, mais elles s'occupent également des transactions avec le négociant. C'est souvent elle qui est à la fin de l'activité du tissage, c'est souvent elle qui porte les pièces de soie au négociant. Et donc, à ce moment-là, se développe une transaction qui est souvent... alors lui, il y a toute une littérature là-dessus qui parle de... Et pour le problème de ça.
La question, l'une des questions que j'ai posées à certains collègues, c'était d'essayer de mieux mais probable qu'il n'y a pas de matériel là-dessus, mais de savoir exactement, je donnerais cher par exemple, de savoir exactement pour avoir une chronique un petit peu précise, de trouver des archives sur un atelier qui aurait été dirigé par une femme dans cette période. Savoir jusqu'à quel point la période des années 1830, qui est très particulière dans le cadre de l'émancipation de la femme, c'est le premier essor du féminisme, du journalisme, du féminisme à travers un journalisme de femmes, en particulier à Lyon, où il y avait un journal qui s'appelle le Conseiller des femmes. Et je voudrais savoir jusqu'à quel point l'activité économique des femmes, dans le cadre de cette économie très particulière, qui est l'économie d'atelier, qui ne ressemble absolument pas à l'activité qu'on va trouver dans le cadre de la manufacture concentrée, en quoi cette activité économique des femmes leur a permis d'acquérir certains droits, certaines expressions et autres. Bon, ça pour l'instant, par exemple dans les papiers de Charny, il y a très très peu de choses. Dans les délibérations du Conseil des prud'hommes, on trouve un certain nombre de cas dans lesquels la femme est. C'est une femme chef d'atelier qui présente un certain nombre de revendications. Ça serait un point intéressant.
Donc, plutôt que par rapport à la question qui est posée là, les calculs des types des ouvriers, non au sens traditionnel du terme.
Ce n'étaient pas des ouvriers de manufacture. Les Anglais, les historiens anglais utilisent le terme de
radical artisans. C'est des artisans, bien entendu, mais c'est également des artisans qui, dans cette période-là, et en raison de leur activité, de leur activité productive, en raison des régulations nécessaires pour cette activité productive, ce sont des artisans qui d'abord se caractérisent par un très haut niveau d'alphabétisation, d'une part, d'autre part par des sociabilités qui sont très particulières à l'époque.
Et puis par une politisation, on va y venir, une politisation qui est assez importante. Une conscience politique est assez importante, surtout les années 1830, où on va le voir, ils vont lire les Saint-Simoniens, ils vont aller écouter les Saint-Simoniens dont on a parlé tout à l'heure, les gens Pierre Leroux, Jean Reynaud, qui ont présenté les publications au début des années 1831. Ils vont écouter ce que leur disent les républicains, dont la principale revendication à l'époque est la nécessaire extension du suffrage universel. Ils vont écouter également, ils écouteront le plus, c'est du moins la thèse que je vais prendre, ils écouteront également énormément de courriels.
Les courriels.
Alors j'ai mis cette image parce que... J'ai mis cette image, elle est tirée de petit livret que vous avez peut-être vu, qui est assez connu, qui s'appelle Le Camus, qui est paru, au tournant 1840, qui est paru un petit peu plus tard, dans une collection qui était dirigée par l'éditeur Cuanet, qui s'appelait Français peint par Homère, et donc il y a un livret qui est sur Le Camus. Quand on lit ce livret, donc, qui est rédigé par Joanne Mougier, qui était un écrivain de l'époque, dont l'un des principaux titres de gloire, en réalité d'être secrétaire de Lamartine un petit peu plus tard. Quand on lit cette brochure, c'est une brochure qui est extrêmement dure, opérative pour le Camus. Je vais essayer de vous retrouver ça. Donc c'est une brochure qui est assez dure, parmi autres amabilités. Joanny Ogier écrit au physique, le Camus a un visage pâle, maigre, long et tendu. Le dos voûté, le corps grêle, les bras osseux, les mains grosses, les jambes cailleuses, les genoux saillants, les pieds plats. La Martine donc, qui emploiera Ogier, la Martine est alors fait de sa gloire en 1848, fait un éloge de Jacquard de la même manière, absolument terrible, où il dit, malheureusement, j'ai perdu la vie. La citation là, où en fait il dit on ne peut pas donner le nom de grand homme à Jacquard, parce que finalement c'est un étudiant laborieux, il est inventif sur son domaine particulier, et tous ceux qui se déplacent pour voir Jacquard à Lyon sont très rapidement déçus par le fait qu'il n'y a absolument aucune conversation en retard pour parler de sa machine, et en fait il finit la partie en disant c'est une machine qui mène une autre machine, et c'est ce qu'il appelle l'éloge de Jacquard. De la même manière, quand Pierre Leroux est venu à Lyon, la description qu'il a fait des Camus est une description absolument terrible. C'est une description terrible, c'est une description qui contraste avec la description d'autres observateurs sociaux de la période. Vous savez que les années 1830 ont été une période durant laquelle, bien entendu, les observateurs ont été frappés, bien sûr, de la montée du paupérisme, de la misère avec la souveraineté. Et donc, se crée tout un ensemble d'histoires. C'est également une période où la médecine a évolué énormément, en particulier dans le cadre de l'hôpital moderne, et on mesure un certain nombre de nouvelles pathologies sociales. Parmi ces enquêteurs sociaux, parmi les grands enquêteurs sociaux de l'époque, selon le médecin, l'un des plus fameux, le docteur Vernet, qui va dresser quelques années après, en 1840, un tableau d'état physique et moral des ouvriers français. Et la description que fait Vernet du sort de la situation des Camus est très positive. Il dit finalement les Camus apparaissent en bonne santé, alphabétisés, ayant une sociabilité qui est une sociabilité élevée. Donc, à travers la description du peuple Camus à cette période-là, il y a des enjeux très forts qui se structurent sur ces ouvriers, sur ce que signifie non seulement ce que signifie pour ces ouvriers, le fait de travailler dans le cadre de la manufacture qui se casse. Est-ce que finalement l'état miséreux se fait déclarer comme un état miséreux, vous pouvez très facilement corréler ça au fait qu'ils travaillent dans un système productif qui est obsolète, ils seraient beaucoup plus heureux s'ils travaillaient dans un autre système productif, et notamment un système productif. Deuxième question à vous poser. La première question, donc, c'était les Camus des ouvriers. Non, manifestement, non, c'était des artisans politisés qui étaient parfois à la tête d'ateliers dans lesquels il y avait 7-8 métiers, qui allaient négocier, qui voulaient négocier sur les tarifs, qui voulaient négocier sur beaucoup d'autres choses, et on en parle également, notamment sur la réforme des impôts qui grévaient leur industrie. Donc, deuxième question. Novembre 1831, donc la première insurrection, qui démeute de la faim. Il y a énormément de... Enfin, la première insurrection du Camus a été interprétée par les commentateurs de façon assez diverse. Au lendemain de l'insurrection, en décembre 1831, il y a un publiciste parisien, Saint-Martin-Girondin, qui les décrit comme des barbares. La phrase est très connue,
je ne sais pas si je l'ai quelque part, où il dit
les barbares qui
Vous l'avez ?
Les barbares qui viennent à cette société ne sont point le Caucase ou dans les steppes de Tartarie, ils sont dans les faubourgs de nos cités manufacturières.
Voilà. Donc c'est un texte qui paraît dans le journal des débats au tout début de 1830, et dans ce texte-là, bien entendu, Saint-Marc-Girardin, on est au lendemain de la révolution libérale de juillet 1830. Ce que dit Saint-Marc-Girardin, c'est que les Canuts sont des barbares, ils sont arrivés à le passé, ils ne comprennent pas la nouvelle modernité industrielle, libérale, économique qui se met en place, et ils sont en retard sur leur époque, en raison probablement d'une immaturité temporaire ou définitive, probablement temporaire dans le terme de Girardin, parce que Girardin va devenir un pionnier de la littérature en pédagogie ou autre, au XIXe siècle. Mais c'est une première description. Alors, novembre 1831, oui, serait en quelque sorte une émeute spontanée, irréfléchie du peuple Calus, qui en plus voulait une régulation des tarifs. Ils seraient tournés vers la première interprétation, les Calus, ce serait en quelque sorte des barbares. Deuxième interprétation qu'on va trouver un petit peu plus tard, que j'aborderai la semaine prochaine, les Canuts, des semi-prolétaires. Dans ce cas-là, la première insurrection des Canuts en 1831 va être interprétée finalement comme la toute première mouture de la lutte des classes au XIXe siècle. Les Canuts auraient été les premiers à concevoir finalement leur émancipation passée par la lutte, et notamment par la lutte des classes. Mais ils ont eu une conscience assez imparfaite du processus d'émancipation, de la nécessité de la lutte des classes, de la nécessité de revenir sur la séparation entre le capital et le travail, dans la mesure où ils étaient à moitié prolétaires, ils étaient en partie propriétaires de leur instrument de travail, mais ils étaient eux-mêmes compressés par les négociants, donc finalement c'était une première ébauche du prolétariat moderne. Cette première ébauche du prolétariat moderne a eu en quelque sorte une première forme de révolution. Finalement, cette deuxième interprétation, comme des semi-prolétaires, se rapproche de la première. Finalement, ils sont interprétés un petit peu comme soit les reliquats du passé, soit finalement les toutes premières moulures de ce qui va se passer dans l'avenir. Et dans ce cas-là, effectivement, ils se seraient soulevés en novembre 1831 pour des raisons en grande partie involontaires, non réfléchies. Or, quand on étudie de façon un petit peu plus précise l'insurrection de 1831, la première insurrection de 1831, de novembre 1831, on se rend compte qu'au contraire, les Canuts, à ce moment-là, premièrement, étaient organisés au niveau de leur action. C'était pas du tout une insurrection spontanée, non préparée ou autre. On se rend compte que, sur un certain nombre de plans, ils étaient préparés. Deuxièmement, ils étaient déjà associés, on verra un peu plus tard, ils avaient leur propre association, qui était le Devoir Mutuel, qu'ils avaient créé en 1828, qui était la première forme de mutualisme. Donc ils communiquaient, ils étaient organisés, ils avaient un certain nombre de revendications, qui étaient des revendications précises. Donc premièrement, leur forme d'action était une forme d'action non pas spontanée, non pas irréfléchie, au contraire organisée. Et deuxièmement, quand on regarde dans le détail le contenu de la revendication, on se rend compte que ces revendications étaient assez précises et assez complètes. Qu'est-ce qu'ils demandaient en 1831? Quand on regarde les débats qui se développent en octobre, en novembre 1831, qui vont encore se développer après la première insurrection en décembre et janvier 1831, on se rend compte que les Canuts voulaient à ce moment-là, effectivement, une négociation sur les tarifs. Ils voulaient que les différents tarifs de la soie, les différents pièce de soie, ne descendent pas sous un certain nombre de millions.
Et donc il y a des conventions, il y a des accords qui soient conclus avec les négociants pour que ces tarifs arrêtent de baisser et ne descendent pas en dessous d'un minimum. Mais ils avaient également des revendications qui étaient plus générales que le tarif. Ils avaient des revendications pour ce qu'ils appelaient une réforme des abus. Ils considéraient que dans le cadre de la transaction qui était faite entre eux et le négociant sur la pièce de soie, un certain nombre d'abus étaient enregistrés en raison de la domination du négociant dans la transaction. Le négociant était plus fort que le cadre. Et donc, dans le cadre de la transaction qui était conclue, dans le cadre d'une commande de pièces de soie, le cadre était dominé et donc un certain nombre d'abus se développaient. Premier abus, l'abus le plus important, alors il y a 15 abus qui sont listés par les canuts.
Je vais en mentionner quelques-uns. Oui, il y a une quinzaine d'abus qui sont
listés. Un abus important, par exemple, c'est l'abus de montage génétique. Le négociant, dans le cadre d'une transaction, pouvait aller voir un canut et lui dire qu'ayant prospecté tel ou tel marché à Londres ou autre, il fallait que le canut produise par exemple 200 ou 250 pièces de tissu de telle qualité. Donc le canut, pour faire ça, était dans la plupart des cas obligé de démonter, de remonter son métier pour produire ces nouvelles pièces. Ce démontage et ce remontage de métier pouvait lui prendre 3 jours, 4 jours, voire plus. Or, il n'était pas rare qu'au moment où le canut se mettait au travail, le négociant revient en disant qu'il s'était tout simplement trompé dans ses anticipations et que ce n'était pas 200 pièces, il avait mis son livre de compte, mais c'était 3 pièces. Bien entendu, le montage de métier était entièrement à la charge du cadre. Parmi les abus sur lesquels une revendication se développe autour de la première insurrection, il y a l'abus du montage de métier. Qu'est-ce que demandaient les cadres dans le cadre? Donc on voit cette revendication apparaître dans les codes de la fabrique ou dans les délibérations du conseil des prud'hommes, les abus voulaient qu'il y ait une mutualisation du risque du montage et du démontage de métier. Donc il y a 15 abus qui sont listés, 15 abus principaux, et les revendications portent finalement sur l'ensemble de ces éléments qui permettent de réguler la transaction, qui permettent de pérenniser la transaction entre les négociants et les cadres. D'accord ? Donc une émeute de la faim en novembre 1831, non. C'était pas une révolte, c'était pas contrairement à ce qu'a dit Saint-Marc Girardin, surtout ce qu'a dit Saint-Marc Girardin, c'est pas l'équivalent d'une révolte supplémentaire qu'il pouvait y avoir au XVIIIe siècle, une explosion spontanée de violence, c'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, les canuts eux-mêmes, à la fin de l'année 1831 et au début de l'année 1832, vont bien insister sur le fait que, dans le cours même de l'insurrection, en novembre 1831, c'était eux qui représentaient l'ordre. C'était eux, finalement, qui ont régulé au mieux la cité. C'était eux qui étaient coupés pour protéger les propriétés. Donc, c'est une revendication qui est très importante. Une revendication de maturité dans le cadre de l'insurrection et dans le cadre des revendications qui sont faites par les cadres.
Je fais une dernière...
Autre question qu'on peut poser après les canuts brigués et novembre 1831, révolte spontanée, révolte de la faim. C'est novembre 1831, point de départ du mouvement socialiste. La question est 1831 a pendant très longtemps été considéré, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, a très longtemps été considéré comme finalement la toute première rupture de lutte sociale, de lutte de classe au XIXe siècle en France. Et donc on a considéré finalement que la naissance du mouvement social se faisait à Lyon, mais également en France, à partir de cette date-là, serait né un phénomène complètement nouveau, c'est-à-dire la révolution industrielle, la première affirmation du capitalisme industriel en France, au début des années 1800. Or, par rapport à cette affirmation, là encore, les travaux récents ont permis quand même de revenir sur cette affirmation-là.
premièrement en remarquant l'ancienneté des conflits dans la fabrique au XVIIIe siècle.
La première constatation a été simplement de remarquer, on a simplement remarqué le fait que c'est vrai qu'il y a des conflits qui sont des conflits, il y a deux conflits qui sont extrêmement violents en 31 et 1954, mais il y a eu une longue succession de conflits au XVIIIe siècle dans le cadre de la fabrique de l'industrie, dans le cadre de l'industrie de la soie.
Ces conflits, en particulier en 1744, en 1786, mais également sur d'autres périodes plus ponctuelles,
ces conflits concernent systématiquement les asymétries de pouvoir entre les deux principaux acteurs de cette industrie, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, premièrement le chef d'atelier, le maître ouvrier, et deuxièmement le négociant. Pendant tout le 19e siècle, il y a une lutte qui se fait entre ces deux principaux acteurs pour dominer la transaction. À certaines périodes, le négociant prend le dessus, à d'autres périodes, le chef d'atelier revient sur cette asymétrie de pouvoir. Donc au XVIIIe siècle, il y a déjà des conflits qui sont extrêmement importants. Maintenant, deuxième point, entre 1789 et la veille de la Révolution, de 1830, 1789 et 1828, il y a plusieurs révolutions qui sont des évolutions très fortes au sein de la fabrique de biens. Et ces évolutions touchent cette transaction entre les deux principaux acteurs. La régulation de des inégalités de pouvoir entre ces deux principaux acteurs. Premier point, de 1789, au moment de la période révolutionnaire, les principales régulations d'Ancien Régime, les principales régulations corporatives sont annulées par la loi de Chapelle. Très rapidement, à Lyon, cette disparition des régulations antérieures crée une véritable situation de chaos. Et tous les acteurs, c'est-à-dire les négociants, les ouvriers, les autorités municipales, réfléchissent à de nouvelles formes de régulation collective de cette industrie qui sont en accord en plus avec les principes révolutionnaires de 1780. Et donc, on commence à travailler sur la possibilité d'avoir un véritable tribunal où seraient représentés les négociants et les chefs d'atelier, les principaux acteurs industriels de la famille. Il y a un long processus avec une réforme du tribunal des arts et métiers, un processus entre 1789 et 1806, qui aboutit à la création d'une institution originale à Lyon, qui est le Conseil des prud'hommes. Les premiers conseils des prud'hommes sont créés à Lyon en 1806, et qui permettent de concilier les conflits de travail, en particulier entre les deux acteurs majeurs de la famille. Les premiers prud'hommes siègent à Lyon, et c'est très rapidement une réussite, parce qu'on se rend compte qu'une proportion très très importante de cas aboutit à des conciliations. Donc, je crois qu'en 1807, 1808, 1809, je perds une dizaine des tribunaux des prud'hommes qui sont créés dans les principales villes de France. Et en 1806, cette institution originale, ce tribunal professionnel original, est créé à Lyon. Donc, là encore, c'est une évolution qui est très importante. Je vais appeler jusqu'à 1828, parce que de 1789 à 1806, il y a ce processus de la communauté de prud'hommes. Et puis, bien entendu, dans le cadre de ces négociations qui sont construites de façon hebdomadaire, dans le cadre du Conseil des prud'hommes, les différents acteurs en présence cherchent à s'organiser, cherchent à peser sur la transaction, cherchent à être informés, cherchent à être suffisamment puissants. Et au milieu des années 1820, les chefs d'atelier commencent à réfléchir aux moyens de peser dans le cadre de cette transaction, peser en ayant, comme je l'ai dit, des informations, peser en ayant le pouvoir suffisant, et ils décident de créer leur propre société, leur propre une première forme d'association qui est le devoir mutuel, qui est le devoir d'indication, d'assistance, d'aide entre les chefs d'atelier. En 1828, ça se fait en 1827, on verra un petit peu avec Pierre Charnier lors de la quatrième séance, entre 1820 et 1828, mais en 1828, une centaine, un peu plus de 100, les listes sont encore dans les archives de Pierre Charnier, un peu plus d'une centaine de chefs d'atelier se réunissent et créent des pouvoirs mutuels. Donc, créent une première forme de mutualisme à Dieu. Donc là encore, on est quand même sur une situation qui est antérieure finalement à ce point de départ absolu que serait novembre 1831, une certaine forme d'interprétation de l'histoire.
Simplement, si on considère que, finalement, en amont de la première insurrection, il y a énormément d'événements structurants qui se sont déroulés à Lyon, au Tiftiense, c'est dans la période révolutionnaire, entre 1789 jusqu'à finalement 1806 et la création des prud'hommes. Dans les négociations qui se font dans le cadre des prud'hommes entre 1806 et 1830, enfin dans la création de 1828 du pouvoir mutuel, on ne comprend pas bien dans ce cas-là qu'est-ce qui ferait la spécificité, pourquoi en novembre 1831, pourquoi il y a eu une explosion si violente en novembre 1831. À mon avis, la raison en est la suivante, c'est qu'en novembre 1831, s'affirme un discours assez fort concernant l'avenir de la famille, concernant donc l'avenir de ce réseau d'atelier qui avait expérimenté un certain nombre de régulations, qui étaient des régulations démocratiques dans le cadre des prud'hommes, évidemment, puisqu'il y avait une représentation relativement, ce n'était pas entièrement paritaire, mais une représentation paritaire dans le cadre des conflits de travail. On apprenait à créer un certain nombre de règles négociées communes. On apprenait jusqu'à un certain point à réformer les avenues. Bon, c'était un système imparfait, mais ceci, c'était souterrain, et ceci, c'était un système qui fonctionnait. C'était un système qui fonctionnait avec ses régulations. Or, en novembre 1831, donc un an ou un an et demi après les Trois Glorieuses de la Révolution politique de 1830, un discours totalement nouveau commence à s'imposer, un discours qui vient des nouvelles élites politiques de l'avenir, d'une partie des élites politiques de l'avenir, un discours qui vient des économistes, un discours qui vient aussi en partie des premiers socialistes, notamment des socialistes, et de dire que finalement, le système de la fabrique, ce système d'atelier qui apprend, qui expérimente, un certain nombre de régulations dans le cadre des boulons, dans le cadre du boulot, ce système est obsolète. Il y a bien entendu, il y a eu une révolution politique en 1830, il y a eu une révolution politique qui va dans le sens de liberté civique et tout l'autre, mais il y a une autre révolution, une révolution plus importante, selon les économistes, selon également les sensibles de l'autre, qui est une révolution économique. Et cette révolution économique doit conduire graduellement au passage de la manufacture dispersée. Au passage de la manufacture dispersée à la manufacture concentrée. Et c'est un discours qu'on voit poindre à Lyon en 1830, c'est très net, et qu'on voit poindre à Lyon tout au long des années 1820, un discours qui dit en gros au Camus, votre système d'atelier est un système obsolète. C'est un système qui doit laisser la place à vos systèmes de la manufacture concentrée, qui est déjà un système, disent ces concrets, qui est déjà un système qui fonctionne dans le domaine du coton et dans le domaine de la laine. Or, les ouvriers, bien entendu, totalement opposés à cette interprétation, eux considèrent que ce système de la manufacture concentrée, la manufacture dispersée, fonctionne plutôt bien, que c'est un système qui leur laisse une grande autonomie des producteurs, que c'est un système qui leur permet de vivre encore à proximité de leurs femmes et de leurs enfants. Les Camus sont tout à fait conscients de ça. Pour quelle raison? C'est qu'ils disent un certain nombre. Là aussi, au début des années 1830, ça a produit des comptes rendus tombent sur la situation des classes laborieuses en Angleterre. La situation des classes laborieuses en Angleterre sera élue bien un tout petit peu plus tard par un auteur qui s'appelle Étienne Duret. Mais déjà, dans les revues saint-simoniennes en 1825-1830, il y a les premiers comptes rendus qui tombent sur la situation des ouvriers de manufacture en Angleterre. Et sur la situation non seulement des ouvriers, mais de leurs enfants, de leurs femmes. Et donc, les ouvriers sont très conscients à Lyon. Sont très conscients de ce qui est en train de se passer dans le cadre de cette évolution industrielle, qu'on veut leur faire croire naturelle, mais qui l'est probablement. Et donc, en 1831 et 1824, je pense qu'une grande partie de l'insurrection, bien entendu, est en réaction directe aux tarifs qu'il faut négocier, à la réforme des abus, sur lesquels il faut travailler, mais également est une réaction très violente contre ce diagnostic global qui se fait alors et qui leur a besoin d'abandonner le système de la manufacture dispersée pour le système de la manufacture concentrée.
Thank you.